Nous avons commencé dimanche passé une réflexion sur l'épître de Jacques et je vous invite donc aujourd'hui à continuer à reprendre notre texte, cet épître, qui après avoir parlé de l'épreuve comme un moyen de purifier notre foi et d'apprendre la patience, va à présent nous inviter à une autre chose très importante et dont nous manquons souvent cruellement, la sagesse. Reprenons le texte. Donc je reprends les 8 premiers versets avec une concentration sur une partie de ces versets. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Jusque-là notre lecture. Si quelqu'un manque de sagesse, il faut déjà s'en rendre compte, qu'il la demande à Dieu. Alors moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, que lorsqu'on manque de sagesse, on puisse demander l'aide de Dieu pour la recevoir. Et de savoir, avec certitude, que si on demande de la sagesse à Dieu, il nous la donnera. Alors je crois ne pas m'avancer trop en disant que la plupart d'entre vous ont déjà certainement demandé beaucoup de choses à Dieu. Je me trompe ? La sagesse, je suis beaucoup moins sûr. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, hein, mais voilà. Peut-être en regardant ma propre vie. Hein. Et pourtant, si on reprend le texte du début, il parle de l'épreuve et puis il demande, il dit « Vous pouvez demander de la sagesse à Dieu, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un lien objectif entre les épreuves qui parcourent notre vie, qui tapissent notre vie, et le fait que pour affronter ces épreuves comme Dieu le veut, il va falloir forcément lui demander de l'aide et en particulier la sagesse nécessaire pour vivre cette épreuve de la manière dont lui le demande. Je l'ai dit la semaine passée en introduction, on peut très bien prendre cette épître très juive dans son contexte et dans son contenu comme étant une sorte de succession un peu proverbiale de thèmes les uns après les autres que Jacques empilerait à la manière d'un proverbe d'ailleurs. Je pense néanmoins qu'on se tromperait en faisant ça parce que pour moi il y a un lien véritable objectif à travers tous ces thèmes que Jacques va d'ailleurs développer encore plus profondément, plus loin. En tout cas, à titre personnel, quand je lis le texte, ce lien, par exemple, entre l'épreuve et le fait de demander la sagesse me semble évident, en tout cas, à moi, au travers de ma lecture. Alors, il y a un petit premier souci, cependant, qui peut surgir à ce stade. Ça en fera sans doute rire plus d'un ou sourire plus d'un de savoir que moi, j'y vois déjà un souci. Qu'est-ce que c'est la sagesse ? Vous avez déjà lu ce texte, je suppose. Vous n'êtes jamais arrêté sur ce que Jacques veut dire quand il parle de sagesse ? Parce que demander quelque chose dont on ignore tout, c'est un peu embêtant, non ? Alors, on sait sans doute vaguement qu'être sage est plutôt positif, que ça peut aider, que Dieu aime bien ça. Après tout, on parle beaucoup de sagesse dans la Bible. On parle même de plusieurs types de sagesse dans le texte biblique. Mais peut-on véritablement demander à Dieu quelque chose dont on ignore tout, dont on ne connaît pas la définition, et dont nos vies manifestent parfois que nous en manquons cruellement ? Donc, essayons donc d'abord de comprendre de quoi l'on parle, de quelle sagesse, Jacques nous parle. Alors, c'est important de savoir de quoi on parle, car comme vous le savez sans doute, pour les chrétiens que nous sommes, l'ignorance a parfois été élevée à un niveau olympique et on se cache derrière cette ignorance. Je ne sais pas, donc je ne suis pas responsable. C'est un peu l'équation. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Dieu tient compte de notre ignorance, mais cela ne nous dédouane jamais de notre comportement. Qu'un enfant ne sache pas lire à l'âge de 3 ans, c'est normal, on ne va pas lui reprocher son ignorance. Le même enfant qui ne sait ni lire ni écrire à 18 ans, il y a un léger problème. La prière de notre Seigneur sur la croix suffira à nous en convaincre. Rappelez-vous, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus peut adresser cette prière à son Père parce qu'il sait que l'ignorance est à l'œuvre dans le cœur de ceux qui l'ont mis en croix. Mais il prie quand même pour que Dieu leur accorde leur pardon. Ce qui signifie que si Dieu tient compte de l'ignorance comme circonstance atténuante, les hommes ont tout de même besoin d'être pardonnés par Dieu parce qu'ils sont bel et bien individuellement responsables devant lui de leurs actes, et en l'occurrence ici dans mon exemple, de l'horreur de la croix. Donc, évitons d'élever l'ignorance au rang de système, parce que pour le coup, cette attitude manque singulièrement de sagesse. Donc, qu'entend-on par sagesse ? Alors, la Bible distingue deux types, en gros, de sagesse. La sagesse de Dieu et la sagesse du monde. La sagesse qui est reçue et produite par Dieu et la sagesse qui est produite par le monde. On va prendre un texte dans la première épître aux Corinthiens où Paul, justement, va, je pense, bien exposer la différence fondamentale entre les deux. De fait, dit-il, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais pour annoncer l'évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Même événement, deux regards différents, deux vécus différents. Du reste, il est écrit : je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage ? Demande Paul. Où est le spécialiste de la loi ? Où est le discoureur de l'ère actuelle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde à travers la croix ? Puisqu'à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu, en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication de la croix, d'un sauveur que Dieu donne à l'humanité pour venir mourir de la pire des manières sur une croix. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alors, on peut déjà déduire de ce passage, qui n'est pas simple, hein, je vous l'accorde, hein. On peut déduire de ce passage que la sagesse produite par le monde, par les hommes non régénérés de ce monde, n'a rien en commun avec la sagesse de Dieu, et qu'on se tromperait lourdement en confondant les deux. C'est évidemment la sagesse de Dieu, celle qui vient de Dieu, que Jacques nous invite à lui demander au travers de la prière. Donc j'ai tenté une définition des deux types de sagesse. Elles valent ce qu'elles valent. Première sagesse, celle du monde. La sagesse du monde, c'est la connaissance naturelle ou acquise des choses de ce monde par les lumières de l'esprit humain. La sagesse du monde, la sagesse des hommes, donc, sans Dieu, cette sagesse vient de leur capacité d'analyse de l'environnement dans lequel ils sont, et ils captent cette sagesse et en font une philosophie, si vous préférez. Et la sagesse de Dieu, quant à elle, la sagesse qui vient de Dieu, c'est la connaissance de Dieu lui-même, donc c'est le connaître lui, personnellement, et celle acquise par la révélation qu'il donne des choses de ce monde. Autrement dit, par exemple, les philosophes vont donner une vision du monde qui procède de la sagesse du monde, de la sagesse des hommes. Et la connaissance de Dieu, lui, vous allez avoir une analyse de ces mêmes réalités qui vous entourent, mais éclairée par ce que Dieu en dit. Alors, j'ai pris une petite illustration, vous connaissez peut-être, donc pour distinguer les deux, mais pour vous dire que le problème fondamental de l'homme, c'est qu'il peut avoir différents regards sur le même type de circonstances. Je vous donne cette petite illustration que j'ai dû utiliser dans le passé. Quand un homme voit une femme, il voit une cible. Quand un moine voit une femme, il voit une tentation. Quand un chrétien voit une femme, ça c'est dans l'idéal, hein, il voit un sujet de louange. Quand un loup voit une femme, il voit son dîner. Pourtant, ils voient tous la même chose, hein, nous sommes bien d'accord. Le contraste que Paul expose sur un même thème dans le texte que nous venons de lire, je pense, est particulièrement frappant. La croix est l'expression de la sagesse de Dieu pour le salut du monde. C'est le regard que vous, chrétiens, avez sur cette croix. Enfin, du moins, j'espère. Mais le monde, avec sa sagesse à lui, considère le même événement, donc la croix, comme une folie. L'opposé, donc, de la sagesse de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune sagesse dans le monde. L'homme naturel, donc l'homme sans Dieu, peut agir parfois en adéquation avec la volonté de Dieu, mais ce n'est pas la norme, puisque la véritable sagesse vient de la connaissance de Dieu lui-même, de la foi en Dieu, en son existence, non seulement théorique, mais aussi morale. Le livre des Proverbes dépeint d'ailleurs très bien l'état de l'homme, ne croyant pas ou vaguement en Dieu, car il est caractérisé par une chose, justement, cet homme qui ne croit pas en Dieu. Et vous allez voir quelle est cette chose. On a ici, dans ce texte, une personnification de la sagesse. Certains théologiens y ont vu une sorte de préfiguration du Christ. Hein. La sagesse crie bien haut dans les rues, sa voix résonne sur les places publiques, dominant le tumulte, elle appelle. Près des portes de la ville, elle fait entendre ses paroles disant « Jusqu'à quand, stupide, vous complairez-vous à des sottises ? Et vous, moqueurs, jusqu'à quand prendrez-vous plaisir à vous moquer ? Et vous, insensés, jusqu'à quand détesterez-vous la connaissance ? Écoutez mes avertissements. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. J'ai appelé et vous m'avez résisté, j'ai tendu la main et personne n'y a prêté attention. » Ce qui caractérise l'homme sans Dieu, c'est l'absence de sagesse, la non-conformité à la sagesse de Dieu, à ce que Dieu dit. Et la manifestation de cette absence de sagesse est justement ce qu'il fait comme évidence qu'il ne connaît pas Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, dans les Épîtres entre autres, quand les apôtres écrivent à des chrétiens parce qu'ils se conduisent en dehors de la sagesse voulue par Dieu, c'est pour ça que ça pose un problème. Parce que ce qu'ils montrent à travers leur vie manque singulièrement de cette sagesse de Dieu. Alors, parlons les théistes, dont les gens qui pensent qu'il y a un principe créateur dans l'univers. Ça existe, hein. Pour insister, je ne sais pas moi, Einstein était théiste. Il croyait qu'il y avait une sorte de grand architecte qui avait tout conçu. Donc plusieurs grands scientifiques au travers des âges se sont dit théistes, croyant en quelque chose, sans plus. Oui, mais croire en un principe qui régit l'univers, ça n'influence pas les actes des hommes, mes amis. Il faut un Dieu bien plus présent que ça pour que ce qu'il dit puisse passer pour nous pour de la sagesse. Car cette véritable sagesse repose sur quoi ? Paul le dit, sur principalement la connaissance personnelle de Dieu. C'est ce que dit entre autres le psaume 111, la crainte de l'Éternel, ou l'amour de Dieu si vous préférez, est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ces décrets ont une raison saine et sa gloire subsiste à perpétuité. Donc ceux qui craignent Dieu agissent raisonnablement avec sagesse et non comme des fous. C'est ce qui les distingue, normalement. Alors, vous l'aurez peut-être déjà compris, on est soit habité par la sagesse de Dieu, soit habité éventuellement par la sagesse du monde. Et c'est lorsque nous sommes confrontés à des choix de vie, quand nous sommes confrontés à des décisions, ce qui arrive tous les jours. Si vous ne saviez pas, je vous informe, hein, que c'est tous les jours, hein, les décisions. Ben, c'est dans ces moments-là, quand nous sommes confrontés à des choix à faire, que nous manifestons par quel type de sagesse nous sommes habités. Comme dans l'exemple cité par Paul. Pour un chrétien véritable habité par le Saint-Esprit, la croix, l'œuvre de Jésus, est la sagesse de Dieu au travers de laquelle il reçoit le salut par la foi. En revanche, pour le non-croyant, la crucifixion est un non-événement, une péripétie de l'histoire ou une folie lorsqu'on lui explique le sens profond de ce sacrifice. On peut prendre un autre exemple. Alors cet exemple est un peu cash, je sais. Hein, c'est peut-être une de mes grandes spécialités, mais au moins ça va avoir, je pense, l'avantage de faire réfléchir, tout cas de bousculer un peu. Imaginez, c'est le cas de personne ici, hein, je sais bien, mais donc, imaginez que votre fille de 16 ans vous annonce qu'elle est enceinte et qu'elle vous demande un conseil, vous êtes ses parents. Elle est aux études, à 16 ans il vaut peut-être mieux, elle est donc très jeune, et sa vie va être bouleversée par la venue de cet enfant, nous sommes d'accord ? Alors les parents, c'est par expérience je dis ça aussi, hein. En tant que pasteur j'en ai vu défiler moi ce genre de situation, hein. Les parents vont commencer par imaginer le scénario de la vie de leur fille avec toutes les conséquences pour elle d'élever un enfant à l'âge de 16 ans. Et ils finiront pour la plupart par conclure qu'il n'est pas raisonnable de garder l'enfant. Et sur quoi s'appuieront-ils pour dire ça ? Sur le bon sens, sur la sagesse. Ce n'est pas raisonnable de garder cet enfant. Tout ça paraît normal et même sage, diront certains. Mais tout ça, et il faut le comprendre, c'est l'expression de la sagesse du monde, de l'analyse qu'un homme est capable de faire d'une situation donnée. Rappelez-vous, la sagesse du monde, c'est la connaissance naturelle ou acquise des choses de ce monde par les lumières de l'esprit humain. Une enfant de 16 ans, à l'heure actuelle, qui est un enfant, si elle le garde, sa scolarité est perturbée, sa vie future est perturbée, ça va, excusez-moi, un bordel sans nom. Ça, c'est l'appréciation de la sagesse du monde. Autrement dit, ce n'est pas raisonnable de garder cet enfant, ce n'est pas sage. Vous aurez remarqué au passage qu'à aucun moment dans mon exemple, on ne mentionne Dieu, ce que lui a à dire dans sa sagesse. C'est vrai que j'ai oublié de préciser que les parents de mon exemple étaient chrétiens. Oups ! Mais ils agissent comme les autres. Hein. Ne vous leurrez pas, hein. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Hein. Alors, est-ce que la réponse de parents chrétiens doit être la même dans ce cas que celle que donneraient sans doute des parents non chrétiens ? Alors, si vous doutez, si vous manquez de sagesse sur ce coup-là, ben, je pense qu'il faut suivre le conseil de Jacques, prier pour que Dieu vous éclaire, vous donne sa sagesse, et il vous la donnera, et ça va être très vite fait. Tu ne tueras pas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, par exemple, hein. Alors, pourquoi est-ce que Jacques est si affirmatif ? On vous demande la sagesse de Dieu, il vous la donnera. C'est quand même très affirmatif, hein. Il y a une sorte de certitude dans cette parole. Alors, pourquoi est-il une telle assurance, Jacques ? Ben, c'est simple, cette prière correspond parfaitement à la volonté de Dieu pour nous. L'exemple le plus célèbre étant celui de Salomon. Je reviendrai à mon exemple, hein. Ce que je dis ici est important pour alimenter la conversation. L'exemple le plus célèbre étant celui de Salomon qui demande à Dieu, hein, futur roi, il va monter sur le trône d'Israël. Il se dit, je suis incapable, moi, de gérer un peuple. Et c'était la fonction du roi, de rendre la justice, de statuer juridiquement sur tous des cas que toute la journée durant, 7 jours par semaine, on va venir lui présenter. Et Salomon, dans son humilité, dit, moi, je suis incapable de faire ça. Que fait-il ? Il demande une seule chose à Dieu, donne-moi ta sagesse pour pouvoir diriger ce peuple. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a dit, tu as exactement demandé ce qu'il fallait, et parce que tu n'as demandé que la sagesse, et pas du pouvoir, de l'argent, de l'or, de la renommée, ta renommée sera connue dans le monde entier. Tu auras tout le reste avec. Donc il faut bien comprendre que quand vous demandez la sagesse à Dieu, c'est que vous savez que vous en manquez. Que vous savez que vous ne savez pas grand-chose. Que vous n'êtes pas Dieu et que vous avez besoin de lui pour savoir que décider dans certaines circonstances. J'ai envie de dire dans toutes les circonstances. Hein. Que vous êtes humble par rapport aux défis de la vie et que vous avez besoin de la sagesse de votre Père, qu'il vous donne sa sagesse. Je reviens à mon exemple. Terrible, hein, nous sommes bien d'accord. Hein. De nombreux parents chrétiens confrontés à la situation de mon exemple impliquant des conséquences importantes, des bouleversements assez extraordinaires. C'était aussi le cas de la croix pour Jésus. C'était aussi assez terrifiant et bouleversant et tout ce que vous voulez. Il a quand même été se soumettre à la sagesse de Dieu. De nombreux parents chrétiens, croyez-moi, vont choisir, conseiller l'avortement parce que cela leur paraîtra plus sage selon la sagesse du monde, mais pas selon celle de Dieu. Alors, je vais être clair, en tout cas sur ce genre de situation. C'est clair que souvent, si pas tout le temps, suivre Dieu, suivre le chemin de Dieu, c'est le chemin le plus difficile. Quand vous vous posez la question, j'ai deux chemins devant moi, quel est celui que Dieu me demande d'emprunter? 9 fois sur 10, vous prenez le plus dur des deux, vous êtes sur le chemin de Dieu. Réfléchissant à ça, je me suis dit, quelle chance que Jésus, que ce soit dans les tentations dans le désert ou dans le jardin de Gethsémané, quand il demande à son père de lui retirer la coupe qu'il est prêt à boire, quelle chance que lui s'est soumis à la sagesse de son père, hein, ou nous ne serions pas là. Alors c'est vrai qu'un avortement, même s'il y a des conséquences psychologiques, hein, c'est vrai qu'un avortement, ça prend une demi-heure à la louche. Élever un enfant, ça prend quasi la moitié d'une vie. Mais que dit la Bible? Quel est l'opposé du sage? Quel est son contraire au sage? Psaume 53, verset 2. Le fou, celui qui manque de sagesse, dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Le Dieu n'existe pas. Autrement dit, agir en fou, c'est prendre des décisions, c'est vivre comme si Dieu n'existait pas, comme si Dieu n'avait jamais rien dit concernant tel ou tel sujet. Alors, c'est quand même un peu étrange comme positionnement si on se dit chrétien, fils et fille de Dieu, donc ayant une relation intime avec un Dieu qui est devenu notre Père. J'ai cité ces deux versets, il y en a bien d'autres. Hein. Tu ne tueras pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'enfant à venir, dans mon exemple, aux yeux de Dieu, ça n'est pas un problème. C'est un être à aimer. Du même sang que ceux qui sont en train de discuter de son sort. Un être porteur de l'image de Dieu. Et potentiellement, un futur enfant de Dieu. Peut-être même un futur serviteur de Dieu. Alors, toutes nos décisions à prendre, nos choix à poser et nos recours à la sagesse n'auront sans doute pas la dramaturgie de mon exemple. Quelle chance! Mais le principe reste posé. Et de là, sans doute aussi le sens du mot sagesse qui peut aussi signifier connaissance. Dans le cas de la sagesse de Dieu, il s'agit bien entendu de la connaissance de sa parole. Confronté à ce genre d'exemple, ce genre de situation terrible, je ne peux même pas imaginer aucun des parents, des grands-parents ou des parents chrétiens qui n'auraient pas toutes ces paroles de Dieu qui leur viendraient à l'esprit. J'en ai cité deux, il y en a d'autres. Hein. Dans notre situation hypothétique, les parents prieront pour recevoir la paix de Dieu dans cette situation. La paix de Dieu, mais la décision, mes amis. Le conseil à donner. Connaissant la volonté de Dieu sur le sujet, ils choisiront quoi? Ben, ils choisiront la foi en Dieu. On va te faire confiance, Seigneur, sur ce coup-là, même si ça sera dur. On va choisir l'obéissance à sa parole et l'amour envers leur prochain. Je pense donc que ces parents-là conseilleront à leur fille de garder l'enfant. Parce que c'est dans le cas contraire, mes amis, quand vous allez partager ça en tant que chrétien avec des amis qui ne le sont pas, ces amis vont dire, ouais, mais t'as bien fait, c'est franchement, moi j'aurais pris la même décision. J'aurais pris la même, eh bien, c'est bien ça le problème. Bon, c'est terrible comme exemple, hein. Vous connaissez, quitte à prendre un exemple, allons-y gaiement. Jacques précise également que nous devons demander. Demander, hein, mais demander sans douter. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais, qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Alors, ce que Jacques affirme ici découle en droite ligne de la mention même qu'il fait de la sagesse. Il sait que celui qui demande la sagesse à Dieu doit croire en lui. S'il s'adresse à Dieu pour lui demander quelque chose de si personnel, c'est même parce qu'il croit. Puisque l'absence de foi correspond à la folie. Alors Jacques, en amoureux des proverbes, raisonne donc ici sous forme de thèse et d'antithèse. Et bon, j'ai fait un petit exercice, j'ai essayé de vous rendre la pensée de Jacques quand il dit ça, au travers de la structure du texte. Si tu es assez sage pour demander à Dieu la sagesse, c'est que tu crois en lui, que tu as foi en lui. Il est donc hors de question de douter de la réponse à ta demande, car cela signifierait que tu n'as pas la foi. C'est antithétique, ça ne peut pas coexister. D'ailleurs, il va continuer en utilisant une image saisissante pour dépeindre cet homme qui s'approcherait de Dieu, le doute au cœur. Il ressemble aux vagues que le vent soulève et agite de tous côtés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des grosses vagues, mais on retrouve ici l'image d'une vague qui s'élève, c'est ce que font les vagues. Ça symbolise l'ascension vers Dieu. La vague se lève. Et puis, cette même vague est poussée de côté, donc horizontalement. Ce qui a un effet pratique sur la vague, c'est qu'elle n'arrive pas entière au rivage. Elle a perdu de sa force quand elle arrive. Elle a perdu de sa résolution. Vous comprenez ? L'image est très forte, me semble-t-il. Et Jacques dépeint cet homme comme instable, un être irrésolu, partagé, un être qui est, dans le grec, dipsoukos, littéralement, qui a deux âmes. Nous savons bien que ce n'est pas possible. Donc l'une qui croit et l'autre qui ne croit pas. Et Jacques dit ça, mes amis, ça c'est pas possible. Alors c'est bien entendu la même âme dont il s'agit, et cette âme est donc partagée. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va donner le même avertissement en Hébreux 11. « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Quel sens aurait une prière adressée à Dieu ? » Et au même moment on prie, au même moment on dit « Il ne me donnera pas ce que je demande. » Même si c'est dans sa volonté, il ne me donnera pas. Je doute. Mais vous doutez de quoi quand vous doutez à ce niveau-là ? Ben, vous doutez de Dieu lui-même, en fait. Donc, Jacques nous dit, on ne peut pas être, il va développer ça beaucoup plus fort plus loin, on ne peut pas être deux choses opposées à la foi en même temps. C'est pas pour rien que je l'ai appelé boum boum, hein, Jacques. Je décline toute responsabilité, moi. On continue, si vous voulez. Jacques 1, 9 à 11. Merci. Que le frère de condition humble, ou le pauvre, hein, si vous préférez, tire fierté de son élévation, que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Alors, ici encore, on pourrait penser que Jacques passe d'un sujet à l'autre, sans trop faire le lien entre eux. Là encore, je pense qu'on se tromperait si on pensait ça. En effet, le riche et le pauvre, deux statuts sociaux existants à l'époque et existants encore de nos jours, sont concernés parce que Jacques vient de dire au sujet de l'épreuve, au sujet de la foi et de la sagesse. Parce que le riche et le pauvre vont se retrouver côte à côte dans l'Église. Jacques écrit à des chrétiens. Et dans cette église à qui il écrit, dans ces églises, il y a des pauvres et des riches qui sont frères en Christ. Le riche chrétien pourrait croire avoir toujours l'agrément de Dieu du simple fait qu'il est riche. Il pourrait déduire que Dieu le bénit tout le temps parce qu'il a des moyens. Alors que le pauvre aurait pu penser exactement le contraire, que Dieu ne lui était jamais favorable, que son statut social le prouvait suffisamment et qu'il ne lui servait donc à rien de prier pour demander quoi que ce soit. En fait, dit Jacques, le riche et le pauvre n'ont qu'une seule chose en commun. Tout le reste passera, la pauvreté comme la richesse. Une seule chose. Une seule dont ils puissent se glorifier, dire « c'est super, merci Seigneur ». Et cette chose, c'est la grâce de Dieu, l'espérance de son royaume. Parce que le royaume est la seule chose qui ne passera pas. Car tout passe ici-bas, la pauvreté comme la richesse. Il nous suffit de repenser à ce que dit l'Ecclésiaste, que tout est du vent et poursuite du vent, y compris les richesses. Donc Jacques suggère que si le pauvre, l'affligé, l'opprimé, trouve dans sa position un moyen qui le libère du monde et le rapproche de Dieu, donc qui le libère de tout ce que le monde recherche et le rapproche de Dieu, elle lui procure une élévation qui fait sa joie et sa gloire, car pour lui la pauvreté est une épreuve perpétuelle qu'il peut transformer en action de grâce. On retrouve la notion d'épreuve. Un pauvre, un véritable pauvre, de tout temps, sa vie est une épreuve continuelle. Et le pauvre chrétien, il y en a aujourd'hui, dans des régions du monde où ils n'ont rien, il y a des chrétiens qui louent Dieu pour le rien qu'ils ont. Et qui font donc de cette pauvreté un moyen d'approfondissement, d'intimité et d'élévation vers Dieu. Et ce qui est vu dès lors par le monde, qui considère comme la pauvreté comme le plus grand des malheurs, même parfois comme une punition, ou au mieux une fatalité contre laquelle on ne peut rien, devient une vie ayant un poids de gloire non négligeable aux yeux de Dieu. Mes amis, quand on réfléchit, c'est le chemin terrestre suivi par Jésus, qui n'avait pas un endroit où reposer sa tête, mais qui vivait chaque instant comme une bénédiction de Dieu. Rappelez-vous la multiplication des pains. Il y a combien ? 5 pains, 3 poissons, 3 poissons et 5 pains, je confonds toujours les deux. Enfin, il n'a rien. Voilà mon dictionnaire biblique ambulant. 5 pains, 2 poissons, donc rien. Il a des milliers de gens à nourrir, il n'a rien. Il commence par faire quoi, Jésus ? Il se plaint, il se lamente. Il dit à Dieu, mais donne-moi plus de poissons, fais quelque chose. Non, il remercie pour qu'il a. Rappelez, c'est ce qu'il fait. Il lève, il dit, et il demande la bénédiction de Dieu sur ce pain, sur ce poisson et ses pains. Il rend grâce pour le peu, pour l'insuffisant qu'il a. Jésus a donc montré l'exemple d'une vie pauvre aux yeux des hommes, mais riche aux yeux de Dieu. Une vie centrée sur Dieu et sur la reconnaissance. Donc, en se glorifiant en quelque sorte de cette élévation, le pauvre résistera à l'action déprimante de la misère et de la souffrance. Parce qu'il ne suffit pas de tenir dans la pauvreté, il faut aussi donner un témoignage de vie qui honore Dieu. Vous savez, au Moyen-Âge, les ordres de on n'a pas vu la multiplication de certains ordres dits mendiants qui ne possédaient rien, qui ne voulaient rien posséder, comme Saint François d'Assise, donc les franciscains, pour rien. C'est en réaction à l'opulence de l'Église de l'époque qu'ils ont dit, mais Jésus n'avait rien. C'est cet exemple-là qu'il faut remontrer. Le pape François, Seigneur, pardon, je cite un pape. Le pape François, dans sa prise de fonction, a dit, je veux une Église pauvre pour des pauvres. Il est franciscain. Non, il est jésuite. C'est ça, hein? Mais il a au moins lu Saint François d'Assise. Venons-en aux riches maintenant. Le riche, au contraire, l'heureux, selon la sagesse du monde, quand la sagesse du monde regarde le riche, elle dit, waouh, qu'est-ce qu'il a comme chance, waouh, tout lui réussit, t'as eu le pognon qu'il a. Donc si le riche, au contraire, arrive à comprendre que ses avantages en nature peuvent le rendre orgueilleux et suffisant comme n'ayant pas besoin de Dieu et de sa sagesse, s'il arrive à se sentir plus pauvre aux yeux de Dieu que le dernier des pauvres, ne fût-ce que spirituellement, s'il arrive à se rendre compte qu'il est destiné à passer comme la fleur de l'herbe, comme le dit très joliment Jacques, cette double constatation qui est produite par la sagesse de Dieu, par l'Esprit Saint, le rendra humble. L'humilité est la seule chose dont il puisse se glorifier, car c'est la seule chose qui rend possible pour lui l'impossible. C'est juste ce qu'il dit, entrer dans le royaume de Dieu alors qu'on est riche. Jésus dit, il y a très peu de riches qui rentreront dans le royaume, parce qu'ils vont mettre leur confiance et leur sagesse dans leurs biens, dans leurs possessions, et pas en Dieu. La sagesse de Dieu peut donc rendre le pauvre riche de la connaissance de Dieu et le rendre dépendant tous les jours au quotidien de lui. Donc ça provoque forcément une intimité profonde entre Dieu et le pauvre. Alors que la même sagesse divine peut rendre le riche pauvre de cœur, comme le dit Jésus, dans son humilité. Et c'est dans ce cadre-là aussi que dans l'Église, les deux pourront cohabiter en bonne harmonie. Contrairement, par exemple, à ce qui se passait à Corinthe, quand ils mangeaient ensemble, il y a les riches apportés à manger, ils étaient ivres morts et repus, et les pauvres mouraient de faim. Et ils étaient pourtant frères en Christ. Rappelez-vous la parabole de l'homme riche et de Lazare en Luc 16. Vous vous rappelez ? C'est une parabole. Hein ? Lazare est un pauvre qui est là, couvert d'ulcères, il n'a rien, enfin comme tous les pauvres, il est couché dans la rue, devant la porte d'un riche, notoirement connu parce qu'il est très riche, qui ne lui donne rien, qui ne s'occupe pas de lui. Puis les deux décèdent et Jésus, dans sa parabole, dit que l'un rejoint, le sein d'Abraham, donc le lieu des croyants, et l'autre, il rejoint un lieu de tourment et de punition. Et on a beaucoup, beaucoup ergoté sur le sens de cette pauvreté de cet homme. Comme si, parce qu'il était pauvre, il montait directement près de Jésus. Comme si la pauvreté suffisait à être sauvé. Ce n'est pas ça que Jésus dit, évidemment. Le pauvre ne rejoint pas la présence de Dieu après sa mort parce qu'il est pauvre, mais bien parce qu'il a fait de cette pauvreté, un habit de fête, un lieu de visitation, une habitation dans l'esprit. C'est pour ça qu'il rejoint la présence de Dieu. Je termine. Ne laissons pas la lune, c'est très poétique tout ça, occulter notre soleil. Ne laissons pas la sagesse du monde nous cacher la vraie sagesse, celle de Dieu, celle que l'on peut demander et qu'il a la volonté de nous transmettre. Car il est un père qui aime ses enfants et veut leur donner le meilleur. Mais pour savoir quoi demander ? Demander ce meilleur à Dieu, il faut être un sage selon la sagesse de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.